j'ai fait des petits portraits aussi.
On a beau faire ce travail de révélation, ça n'est pas entendu. Il y a un déni, toujours. Il y a effectivement un écran.
Quelques portraits subjectifs, quoi. Enfin,
Moi, je comprends que
les gens tels que je les ai vus en les rencontrant.
Que les journalistes, à un moment, disent « Ah bah oui, ça continue ». C'est vrai que c'est côté lancinant.
Sabine Fabiani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éducatrice, vous travaillez actuellement à l'accueil de jour Consola Marceau, ce qui vous amène régulièrement à être en contact avec des précaires, avec des SDF. On va parler tout à l'heure, si vous voulez bien, de cet accueil de jour et de ce que vous y faites, de votre travail. Mais peut-être quelques mots d'abord sur votre parcours, sur ce qui vous a amené à choisir cette profession, ce travail et le contexte dans lequel vous l'exercez, c'est-à-dire la rue.
Bah écoutez, j'ai commencé très très jeune au moment où j'allais à l'école à me dire que l'école pour moi c'était pas fait pour moi et que je voulais travailler. Donc je suis allée à l'école jusqu'au bac, mais c'est vrai que j'avais envie de travailler. Donc très tôt j'ai fait des colos en tant qu'animatrice, puis directrice, assistante sanitaire, etc. pendant 15 ans à peu près. Ce qui me permettait d'avoir de l'argent pour voyager. Donc, j'ai voyagé énormément toute seule, voilà, dans des pays plutôt pauvres, etc. Et voilà, je voulais me rapprocher des différents peuples et être avec eux, etc., pour comprendre un peu la façon de vivre des autres. Et donc, voilà, après, j'ai monté une boîte de déco plus tard, juste avant de travailler à l'accueil de jour, parce que j'avais fait aussi beaucoup de décoration avec mes parents. Donc voilà, j'ai appris sur le terrain en fait déjà pas mal de choses au niveau humain par mes voyages, par voilà toutes mes rencontres. Et un jour j'ai un ami qui m'a proposé de travailler à l'accueil de jour. Donc ça c'était en 2005. Donc voilà, sans avoir forcément de diplôme d'éducatrice ou autre. Donc là j'ai commencé donc à l'accueil en salle du public. J'étais là pour faire du lien en salle et rencontrer les gens. Donc à l'accueil de jour Marceau Consola, il y a plein de gens différents, hein, d'univers différents. Donc il y a des jeunes, des vieux, des gens de cultures différentes aussi. Il y a des problématiques psychiques, il y a des problématiques physiques aussi, etc. J'ai rencontré donc un nouveau public que je connaissais pas. Et ça m'a tout de suite plu, quoi. Je faisais des rencontres individuelles avec des gens qui avaient des parcours de vie complètement différents, hein, de moi ou même entre eux. Et du coup, voilà, j'ai pris énormément de plaisir à travailler pendant 4-5 ans à l'accueil de jour. Donc j'ai un peu évolué dans ma fonction dans le sens où j'ai fait de plus en plus de choses dans cet accueil de jour. Et j'ai accroché avec ce public parce que je ne connaissais pas du tout. Et voilà.
C'est un métier en même temps dans lequel il faut donner beaucoup de soi-même, qui demande beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie. Est-ce que de votre part, ça a été une forme d'engagement que de choisir de continuer à travailler dans cet accueil de jour et dans ce domaine, éducatrice de rue? Est-ce que c'est un engagement social, politique, philosophique de votre part?
Au départ, ça n'a pas été un engagement dans le sens où j'aime créer du lien avec les gens, j'aime discuter avec les gens, j'aime être à côté d'eux, savoir un peu ce qu'ils font, ce qu'ils sont, etc. Et peu petit à petit, c'est devenu plus un engagement, effectivement. Quand j'ai compris, parce qu'au départ, quand je suis arrivée, je connaissais pas du tout l'urgence sociale et du coup, j'ai découvert au fur et à mesure du temps, voilà, les structures, les associations, les partenaires, le public qui venait, donc était très très varié, etc. Donc petit à petit, je me suis appliquée de plus en plus et j'ai compris que voilà, quand on était bien avec ce public là et ben c'était bien de travailler, quoi. Voilà,
parlons un petit peu de cet accueil de jour dans lequel vous travaillez aujourd'hui. Un accueil de jour, c'est quoi?
Alors, d'autres accueils de jour, je ne sais pas. Nous, on propose une mise à l'abri des personnes. On écoute, on accompagne, etc. Donc, les gens viennent, c'est anonyme et gratuit, hein. Ils viennent, ils peuvent prendre une douche, ils peuvent se reposer, lire le journal, ils peuvent regarder la télé et boire un coup, boire un café. Et petit à petit, l'accueil de jour a développé, donc, que ce soit Marceau ou Consola, on a développé l'accompagnement. Parce qu'il y avait sûrement un manque dans la ville. Et du coup, maintenant, on propose une domiciliation administrative aux personnes et on les accompagne. Donc, en fait, normalement, on propose une domiciliation administrative et un accompagnement social pour les gens qui ont besoin d'aide dans leur démarche. Toutes celles qui sont autonomes, elles peuvent aller dans les CCAS ou se domicilier dans notre structure.
Quel est le public de cet accueil de jour, les usagers de cet accueil de jour?
Normalement, c'est des gens isolés, c'est des personnes isolées, donc majeures aussi. Et elles peuvent venir juste pour la mise à l'abri, l'hygiène, etc. Après, pour tout ce qui est domiciliation, c'est des gens isolés qui ne sont pas mariés ou avec des prestations de couple.
Vous parliez de démarches administratives, d'aide aux démarches administratives. Je crois d'ailleurs que l'accueil de jour est en quelque sorte un guichet unique qui permet d'accéder à l'ensemble des démarches administratives sans avoir besoin de se déplacer en de multiples lieux. Est-ce que vous avez le sentiment que cette complexité administrative, elle est vraiment terrible et c'est un des facteurs d'exclusion à l'égard des très pauvres? Finalement, un des éléments de l'exclusion, c'est aussi l'exclusion administrative. C'est peut-être contre ça que vous luttez d'ailleurs.
Oui, l'exclusion administrative, aussi au niveau de la santé, enfin à tous les niveaux, hein, je dirais de manière globale. Les personnes sans domicile fixe sont débordées par leur démarche en fait, parce que toutes les structures sont loin. Donc nous, ce qu'on essaye de faire à l'accueil de jour, c'est de les accueillir et de répondre à leurs questions ou de les orienter par rapport à leurs besoins et leurs questionnements. Et après, justement, de leur fournir les adresses pour manger, dormir, faire les démarches administratives, se soigner, rencontrer des médecins. Donc ça, c'est un boulot pour eux qui est monstrueux, parce que les lieux ne sont pas très loin les uns des autres, mais c'est quand même un parcours, quoi, un sacré parcours du combattant quand même, hein. Il faut beaucoup d'énergie pour pouvoir aller le matin faire des démarches, à midi aller manger, l'après-midi refaire des démarches à d'autres niveaux, le soir aller dormir, c'est compliqué effectivement. Et puis surtout, je pense que l'important, c'est de comprendre ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin, et surtout les orienter correctement. Et pas les faire aller dans des endroits où c'est pas adapté par rapport à leurs besoins ou leurs questions. Enfin, comprendre un peu la situation de la personne au niveau du diagnostic et de l'évaluation, en fait, hein, pour pouvoir orienter, je pense que c'est primordial, justement, pour pas qu'ils s'éparpillent et qu'ils aillent n'importe où, là où c'est pas adapté, où il a pas le bon papier, où là, il faut payer pour manger, ou voilà. Ça, c'est, je pense qu'il faut être fin dans le diagnostic en fait de la situation de la personne et comprendre vraiment sa demande et ses besoins.
Quel est le premier élément qui est important pour réinsérer quelqu'un qui se trouve dans la rue du point de vue administratif, justement, le premier papier qu'il faut faire?
Le premier papier en général, c'est la carte d'identité. Mais pour ça, il faut un acte de naissance. Pour ça, il faut être en capacité de faire des démarches administratives ou faire des photos d'identité. Donc déjà, ce n'est pas évident pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, on doit poser des questions sur le nom des parents, le prénom des parents, etc., pour pouvoir faire des demandes d'actes de naissance. Et selon les situations ou selon les personnes, ce n'est pas évident du tout. De prendre des photos, d'être relativement propre, etc., ça demande pour certains beaucoup d'énergie. Et après, il y a cette histoire de vol, de perte, je veux dire, de renouveler régulièrement sa carte d'identité parce qu'on se la fait voler, on la perd, on ne sait pas. Ça, c'est vraiment la première démarche qui paraît super évidente, mais pas pour tout le monde, quoi.
Ça veut dire que si on est sans papier, et par exemple que l'on vient de loin, d'un pays dans le monde très troublé, et on s'est réfugié en France, on n'est pas en capacité de pouvoir déterminer sa filiation. Ça veut dire qu'on est définitivement exclu quand on n'a pas de papier, y compris des services sociaux et des services sanitaires et des services de santé.
On peut refaire ses passeports dans les consulats ou dans les ambassades. Après, c'est payant. Donc, ils n'ont pas d'argent, effectivement. Après, du coup, ils sont sans papier quand même. Tous les pays européens, il n'y a pas de problème. Mais pour les autres, c'est des gens qui ne sont pas autorisés à être sur le territoire. Donc, ils peuvent refaire leurs papiers moyennant de l'argent. Et encore, effectivement, des fois, ils ne savent pas trop. Là, j'ai une personne qui était déclarée morte dans son pays. Donc là, pour refaire des papiers administratifs, le gars, il pense qu'il est mort, en fait. Alors qu'il n'est pas du tout mort, mais ce n'est pas évident de travailler. Après, on travaille bien avec les consulats et les ambassades. Hein, mais souvent, il faut aller sur Paris, parce qu'il y a certains papiers, il faut se déplacer. Donc, il n'y a pas l'argent, il faut prendre le train. Ce n'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Et puis, ce n'est pas parce qu'on a son passeport que du coup, on peut avoir des papiers sur le territoire français. Hein, on peut faire une demande d'AME, d'aide médicale d'État, mais après 3 mois sur le territoire, mais c'est pas évident. Ah oui, c'est un parcours du combattant, hein, c'est sûr, c'est compliqué. Enfin, nous, normalement, à l'accueil de jour, on domicilie et on ouvre des dossiers pour des personnes qui ont des papiers. Mais vu que je travaille maintenant dans l'équipe mobile et que nous rencontrons plein de personnes différentes et qu'on est là pour leur proposer une aide administrative liée à la santé, liée au, à recherche aux familles, etc., on fait pas mal d'AME, en fait. On propose des AME. Et c'est pas très difficile à avoir. Avant, c'était 30 euros, donc là, ça devenait compliqué. Et maintenant, avec le gouvernement, ils ont enlevé les 30 euros, c'est plus facile.
Est-ce que pour un sans-domicile fixe qui viendrait d'un pays européen, et qui se serait établi à Marseille, qui viendrait dans votre centre, il est automatiquement pris en compte administrativement parce qu'il est citoyen européen, donc il a les mêmes droits que vous et moi, ou bien est-ce qu'il faut qu'il fasse des démarches supplémentaires ?
En fait, ils ont le droit à l'AME au niveau de la santé. Après, pour tout ce qui est prestations, de la CAF, etc., ils ont aucun droit. Il faut qu'ils trouvent un boulot en CDD ou en CDI pour pouvoir s'inscrire au Pôle emploi et pour après avoir des prestations du Pôle emploi. Donc la CMU va avec, je veux dire, il faut qu'ils s'insèrent au niveau administratif et ça passe par l'emploi en général. Parce qu'ils n'ont pas le droit au RSA ou à la CEDIC ou même à la CMU s'ils ne rentrent pas dans le droit commun. Et le droit commun, ça passe par le travail. Alors le problème, c'est les Roumains et les Bulgares. Bon ben voilà, ils n'ont pas les mêmes droits que les autres Européens parce que c'est les derniers arrivants dans l'Europe et que justement là, en ce moment, l'État est en train d'accepter à ce qu'ils soient sur le même statut que les autres. Donc ils aient le droit au travail. Avant, il fallait que les employeurs payent une taxe. Et c'était ça aussi le problème des Roms, etc. C'était qu'ils avaient finalement trouvé... Ils ne pouvaient jamais trouver de boulot, quoi. Et donc, rentrer dans le droit commun français.
Quel regard vous portez-vous sur cette Europe à deux vitesses ?
Je pense qu'il fallait le prévoir à la base. Hein. Enfin, pour moi, c'est normal que les pays plus fragiles de l'Europe viennent vers les pays plus riches de l'Europe. Et quand ils ont créé, moi je suis pour justement une ouverture de toutes les... Il n'y a pas de souci pour toutes les frontières. Un seul monde, hein, je suis vraiment pour ça. Mais c'est vrai qu'il fallait prévoir qu'il y ait forcément des gens qui viennent vers les pays les plus riches. Parce que par exemple, les Roms, là-bas, ils sont aussi exclus. Hein, c'est des exclus de leur propre pays. Mais donc ça, pour moi, ils ne l'ont pas prévu, ils ne l'ont pas imaginé. Et donc, voilà, maintenant, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités, quoi.
Parlons un petit peu du fonctionnement de l'accueil de jour. Par définition, c'est un accueil de jour. Il y a probablement un relais avec des structures qui, elles, permettent un hébergement donc pendant la nuit. Comment est-ce que vous travaillez en collaboration avec et en complémentarité avec d'autres structures d'hébergement, Sabine Fabiani ?
Alors, l'accueil de jour, nous, on travaille avec énormément de partenaires. Hein, ça, moi, surtout spécifiquement dans la rue aussi, parce qu'on propose des prises en charge globales, mais on ne répond pas à toutes les demandes. Et puis, on n'est pas médecin, on n'est pas... Voilà, on n'a pas toutes les fonctions en un. Tout ce qui est mis à l'abri, c'est l'accès à la douche, l'accès à la nourriture gratuite aussi, donc au repas gratuit. Après, tout ce qui est les soins, c'est le CASO, Médecins du Monde, c'est le Point Santé de Saint-Jean, c'est les hôpitaux, c'est même les médecins généralistes de quartier. C'est vraiment toute structure où pouvoir apporter une aide, on travaille avec elle. Après, il y a tout ce qui est lors de la culture aussi, puisqu'on essaie de quand même de développer la culture parce que pour moi c'est la base, hein, donc on peut pas essayer de redynamiser quelqu'un, lui faire prendre confiance en lui l'aider pour qu'il soit motivé et lui faire prendre confiance si à un moment donné il se libère pas un peu l'esprit. Que la culture, ça fait partie, pour moi c'est fondamental dans l'accompagnement, quoi. Donc on travaille vraiment avec les accueils de nuit, les accueils d'autres accueils de jour aussi. Il y a des gens qui sont pas forcément bien à l'accueil de jour à la DG, donc on leur propose d'aller dans d'autres accueils de jour qui sont différents. Donc voilà, on travaille avec plein d'associations, plein de structures, même des associations de bénévoles. Hein. On travaille beaucoup avec les maraudes de nuit, la nuit, pour les gens qui dorment dans la rue, qui ont besoin d'alimentation, etc. Donc les vestiaires, on travaille... c'est très très varié. Donc c'est très lié à tout ce qui est insertion, donc avec la domiciliation et le suivi social. Donc tout là, c'est toutes les administrations de droit commun, etc. Et puis après, il y a toutes les associations pour la mise à l'abri, pour l'accès à l'hygiène, à la santé. Enfin, c'est très varié, en fait. C'est un travail très varié et c'est passionnant.
Est-ce que vous pensez que le premier élément, quand même, pour réinsérer quelqu'un, c'est qu'il ait un logement, finalement, c'est qu'il ait un toit sur la tête ?
Je dirais pas 100% le logement d'abord, ou alors 100% le logement d'abord, mais avec un sacré accompagnement derrière. Pour certains, pas tous. Après, parce que moi, j'essaie vraiment dans mon accompagnement de prendre en compte la possibilité, la capacité des gens à faire par rapport à l'autonomie, par rapport à ça. Loger des gens, pourquoi pas, donc que ce soit dans des appartements, dans des maisons relais, mais il y a des gens autonomes qui peuvent très bien s'en sortir tout seuls, hein, comme les gens lambda, hein, les personnes lambda. Après, pour celles qui ont besoin d'un accompagnement, il faut des équipes derrière qui soient là, que ce soit médical, social. C'est important qu'il y ait un accompagnement pour que ça fonctionne. D'ailleurs, je prendrai juste l'exemple du hameau, hein. On a travaillé pendant un an avec les éducatrices du hameau pour essayer de proposer à des personnes d'entrer dans ce hameau, hein, dans ces chalets.
Hameau, c'est un lieu d'accueil.
C'est un lieu de vie. Plus qu'un lieu d'accueil, c'est un lieu de vie où les gens, donc l'équipe leur a proposé de s'installer là-bas, mais l'équipe les accompagne. Ils sont très bien, ils sont chez eux. C'est des gens qui vivaient vraiment dans la rue depuis très longtemps, vraiment en carton, très marginalisés, avec des troubles psychiques, avec des problèmes de santé sévères, etc. Elles vivent très bien là-bas et c'est vraiment un projet qui est mis en place maintenant. Mais il y a un accompagnement.
C'est en même temps un lieu qui est décrit souvent comme atypique, le hameau, par rapport à d'autres accueils de nuit classiques. Quel regard vous portez sur le travail du hameau et sur la différence notable qu'il peut y avoir entre leur pratique et puis celle d'autres accueils ?
De toute façon, il n'y a pas 50 choix. Il y a les accueils de nuit d'urgence. Il y a les CHRS, donc les centres de réinsertion. Hein. Après, il y a des maisons relais, etc. Donc ça, c'est pas mal. Et après, pour ces personnes qui sont... Moi, c'est celles que j'accompagne dans la rue. Donc, par rapport à ce public-là, je connais bien. Il y a très peu de choix pour ces personnes-là. Donc, c'est un lieu atypique, effectivement. Mais c'est un lieu adapté, justement, entre le dedans, le dehors. C'est vrai que c'est une pratique différente aussi, où on est très proche des gens. Hein. Il y a une proximité au niveau du lien, de la relation, etc. Mais c'est nécessaire. Je pense qu'il y a besoin d'un panel de choses, de propositions différentes pour, justement, les publics qui sont quand même très hétéroclites, quoi.
L'articulation entre l'accueil de jour, les accueils de nuit, est-ce que ça vous a parfois posé problème de devoir mettre quelqu'un sur le trottoir le soir, Sabine Fabiani?
Depuis que je travaille dans la rue, depuis 2008, au début, effectivement, ça me mettait en rogne, hein, que de pas pouvoir proposer une orientation à quelqu'un, etc. Et c'est vrai que de plus en plus, malheureusement, je me dis... Je suis force de proposition, je connais pas mal le réseau, je sais qui appeler en cas d'urgence, je pense, mais des fois il n'y a pas de possibilité. C'est pas que je l'assume parce que c'est pas de ma faute, mais à un moment donné, je le vis beaucoup moins comme une violence, dans le sens où j'explique aux personnes que voilà, il y a pas de possibilité, il y a pas de choix. Après, c'est elle aussi qui décide, hein. Il y a des possibilités. Après, elle refuse. Je suis vraiment dans le respect du choix. Moi, quand j'accompagne quelqu'un, c'est vraiment la personne au centre, et je ne suis que force de motivation, proposition. Je peux accompagner pour visiter. Je peux faire vraiment plein de choses différentes. Si elle veut pas ou qu'elle le sent pas, je respecte son choix. Donc maintenant, je le vis vraiment différemment. Avant, je le vivais mal. Maintenant, c'est la vie de la personne, c'est sa situation. Moi, je fais ce que je peux, moi et d'autres. Hein, donc quand je peux pas, parce que je pense qu'il y a un lien qui est particulier, qui est trop fort, etc. Je passe des relais à mes collègues, etc. Mais je le vis moins mal qu'avant.
Vous ne prenez jamais de décision concernant une personne sans l'avoir consulté, évidemment, et contre l'avis de cette personne?
Dans la globalité, non, jamais. Mais il arrive effectivement que quand il y a des gros troubles psychiques sévères, quand il y a vraiment de la psychiatrie flagrante, parce que nous on n'est pas médecin, donc on peut évaluer l'état d'une personne juste par des symptômes, c'est-à-dire où voilà, elle parle toute seule, elle va être super speed, elle va regarder en l'air, elle va faire des gestes pas possibles, etc. Là, en général, je la signale aux équipes de psychiatrie sans forcément son accord. Mais je pense qu'elle est même pas en capacité de savoir que, enfin, je peux même pas, je peux essayer de lui proposer de rencontrer si elle est en capacité d'entendre, mais de temps en temps, sans son accord, je la signale. Après, je ne fais que la signaler. Après, les psychiatres ou l'équipe de soignants font leur diagnostic médical, etc. Et puis après, donc je leur passe le relais. Mais ça, c'est quand c'est vraiment sévère, quand c'est vraiment grave, quoi. Hein, quand il n'y a pas possibilité. Et surtout quand la situation, en 3, 6 mois, 8 mois, elle n'avance pas. Voilà, c'est des personnes qui sont très malades psychiquement et que le social ne peut aider que dans le lien et dans la relation.
Il y a une proportion importante des gens qui sont à la rue et qui sont en souffrance mentale.
Oui, dans l'équipe mobile, en fait, on s'occupe de personnes qui sont dans la rue depuis très longtemps, qui vivent dans des cartons et qui sont très marginalisées et qui ont lâché prise sur pas mal de choses, qui veulent rien, en fait, au départ. Donc, nous, on leur propose un accompagnement global et ça passe vraiment par le lien, la rencontre et le lien fort qui se crée. Et on prend le temps. Mais, effectivement, il y a plein de différentes formes de pathologies. Il y a celles qui sont dans une grande dépression, voire le lâcher prise, à un moment donné, psychiquement, ils sont très fragiles, quoi. Mais voilà, après, il y a des troubles sévères. Enfin, après, il y a plein de maladies psychiques dans la rue. Et donc, il y a des gens, ils s'en sortent pas trop mal. Donc, quand c'est pas très grave, nous, on arrive à travailler quand même, même si on sent qu'ils sont quand même pas forcément toujours là. Mais quand c'est trop sévère, on fait appel au psychiatre. Et puis même quand c'est pas trop sévère, on fait quand même appel à eux. Mais si la personne le consent.
Parlons un petit peu de la place des usagers dans le fonctionnement de ce centre, de cet accueil de jour. Je crois que vous organisez régulièrement des tables rondes, mises en discussion du fonctionnement de la structure. Est-ce que les usagers ont leur mot à dire ?
Alors au niveau du... Pour l'instant, on y travaille.
Sabine Fabiani.
On a fait pas mal de tables rondes, effectivement. Alors ça dépend des périodes. À l'accueil de jour Marceau, donc il y a beaucoup plus de propositions d'animation et des tables rondes, mais ça dépend par période. Il y a des moments où on n'a pas trop le temps. Et la concertation des usagers, on y vient. On n'est pas encore très calé là-dessus, mais on y travaille.
Ça ne vous semble pas une priorité, justement, parce qu'il y a des besoins spécifiques et parce que souvent, les gens qui sont à la rue disent « mais je ne veux pas aller dans un centre parce que j'ai peur d'y être battu, d'y être volé, d'y être violé ». Et peut-être le fait de savoir qu'ils participent à la vie de ces établissements, qu'ils ont leur mot à dire, qu'ils sont considérés comme des citoyens à part entière, donc qui ont le droit d'avoir un avis, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait de nature à changer leur appréhension, finalement, de ces lieux ?
Oui, on y tend, hein. On tend justement à bon, on sait. Enfin, moi, dans la rue, j'entends beaucoup parler de ma propre association, etc. Donc, on y tend et c'est primordial. C'est complètement primordial de les intégrer justement à part entière dans le travail au quotidien, l'accueil de jour. Et eux ont même des idées, hein. Je veux dire, ils peuvent faire évoluer une association par leurs idées et c'est souvent super pertinent, hein, y a pas de souci. Après, faut prendre le temps. Je dis pas faut avoir le temps parce que aucune association a le temps, mais il faut prendre ce temps-là justement d'organiser ça.
Parlons un petit peu, si vous voulez bien, de l'évolution de la précarité, du moins telle que vous l'observez ici à Marseille. Est-ce que depuis que vous travaillez dans cet accueil de jour et depuis que vous êtes mobilisé comme travailleur social, est-ce que vous avez eu l'impression de voir cette précarité évoluer en termes de quantité, en termes de gravité ?
Je pense qu'il y a de plus en plus de monde dans la rue et surtout sur domicile fixe, donc au niveau des files actives, c'est flagrant, hein. La file active de l'accueil de jour de l'association dans sa globalité, elle a évolué, hein, dans le mauvais sens, quoi. Il y a de plus en plus de monde. Après, dans la rue aussi, hein, je trouve qu'il y a plus de précarité. Il y a des populations que je rencontrais moins avant. Donc des retraités qui perdent leur logement, des expulsions. Il y a pas mal de femmes. on est dans une précarité de plus en plus flagrante, quoi. Ça, c'est évident. Avec les montées des loyers, ça s'explique par plein de choses. Hein. C'est difficile de garder son logement et d'avoir un logement, surtout. C'est de plus en plus difficile. Il y en a peu.
Ça veut dire que les aides sociales, et notamment l'aide au logement, ne fonctionnent pas bien, puisque des gens âgés se retrouvent ainsi dans la rue. C'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
Oh, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas, ça c'est évident. Il n'y a pas assez de logements déjà, ça je pense que c'est évident. Il y a, au niveau des centres, des foyers d'urgence ou de CHRS, etc., il n'y a pas assez de propositions d'hébergement, parce qu'il n'y a pas assez d'hébergement, ils sont tout le temps pleins. Il y a des listes d'attente au niveau des foyers qui sont de 2, 4, 4 mois, 6 mois, etc. Dans le parc privé, cette population, c'est super difficile d'avoir le mois de caution, un garant, etc. C'est pas adapté. Donc c'est de plus en plus compliqué, évidemment. Hein, pour trouver un logement autonome, c'est la croix et la bannière. Déjà pour quelqu'un, je pense, qui travaille, qui est salarié, qui a une paye relativement modeste, mais il a du mal, donc vous imaginez cette population-là, c'est très compliqué, quoi. Et puis surtout, les gens au niveau des retraités ou des gens qui sont dans des logements et qui les perdent, hein, puisqu'ils sont expulsés, le problème, moi ce que je trouve, c'est encore, je reviens encore à l'autonomie des personnes, etc. Il y a des gens qui sont qui sont peu autonomes et on leur demande, mais ce qui est normal, d'aller voir les assistantes sociales, d'aller dans les services sociaux, d'aller dans les maisons de la solidarité ou autres. Et il y en a, ils sont pas en capacité d'y aller. Donc si les travailleurs sociaux ne viennent pas à eux, dans un premier temps, après le but c'est de les autonomiser à ce qu'ils viennent. Mais dans ces cas-là, ils restent seuls, ils font rien, ils ont des charges monstrueuses, ils payent plus, ils ont plus d'argent. Et on voudrait croire que tout le monde est autonome pour faire des démarches, tout le monde est autonome pour s'acheter à manger, pour payer. Eh bien, je suis pas sûre de ça. Entre les personnes très âgées, donc avec des débuts de maladie, Alzheimer ou autre, ou même handicapées un peu physiques, ou des lâcher prise parce qu'elles sont dehors de la dépression et tout, c'est pas évident pour les gens de se bouger à faire des démarches pour essayer de faire évoluer leur situation dans le bon sens, c'est pas évident. Donc je pense que les services sociaux, des fois, doivent aller à la rencontre des gens plutôt que de demander aux gens d'aller vers elles.
Autrement dit, les services sociaux ne devraient pas se contenter d'ouvrir un guichet.
Ils se déplacent, en fait, mais ils sont débordés comme toutes les associations, comme toutes les administrations. Du coup, ils le font peu, parce qu'ils n'ont pas de temps. Après, c'est pas, je casse pas du dos sur les administrations ou sur les assos, parce que nous on est en premier, on est pareil, hein, on est débordés un peu, on va dans tous les sens. Mais prendre ce temps-là ou embaucher plus de monde, quoi, à un moment donné. Il faut adapter sa pratique, en ayant des moyens financiers et humains, à adapter sa pratique aux besoins, quoi. Parce que sinon, on crée des gouffres, et c'est là où la précarité, elle s'enfourne, quoi.
Est-ce que vous avez l'impression quand même que la société française, dans sa globalité, devient de plus en plus précarisante, de plus en plus excluante ? Est-ce que le tout économique, finalement, est la fin de la période d'un État social qui se préoccupe de ses citoyens ? Aujourd'hui, on est sur un marché, point, et c'est un peu la logique qui prévaut partout. Est-ce que ça a été de nature à augmenter encore considérablement la précarité, selon vous ?
Oui, c'est surtout l'individualisme. Enfin, après, l'économie, c'est l'économie. C'est vrai qu'il y a peu de lois justes, hein, par rapport au social, etc. C'est un peu compliqué, mais c'est surtout que les gens sont de plus en plus individuels et c'est un peu chacun sa merde et que du coup, on fait plus attention à l'autre. Il y a de moins en moins d'entraide parce que bon, les gens ont peur. Hein, je comprends que les gens, leurs fins de mois sont difficiles, le boulot c'est précaire. Les gens ont peur et du coup, l'État n'aide pas non plus, hein, parce que du coup, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de lois au niveau social. Hein, faut voir les budgets, etc. Donc ça se précarise dans tous les sens. Enfin, moi, je travaille dans la rue, donc j'assiste à des scènes. Il se passe énormément de choses. C'est l'aventure tous les jours, quoi. Vous travaillez dans la rue. Bon, je travaille pas 8 heures par jour non plus dans la rue, mais je vois de moins en moins d'entraide. Les gens se disent moins bonjour. C'est flagrant qu'il y a quelque chose qu'on est en train de perdre. Vous voyez dans les bus, dans les métros, c'est très froid, quoi. Les gens ne se parlent pas, ils sont tous dans... Et bien là, je trouve qu'on devient un peu comme ça. C'est chacun son histoire et on ne regarde pas ailleurs ce qui se passe. Et pourtant, à Marseille, il se passe plein de choses. C'est très vivant. C'est une ville quand même, faut voir, c'est très vivant.
L'augmentation de la précarité, donc selon vous, ce n'est pas tant une cause économique, la crise qui frapperait l'Europe en ce moment, mais c'est quelque part un lien social qui se défait.
Mais je pense que ça va ensemble, parce que quand on dit la crise, le pouvoir économique, etc. Ben, à un moment donné, si c'est la crise, c'est les gens, ils ont peur de perdre leur boulot. Ils sont voilà logés. Faut voir les gens qu'on laisse loger dans des appartements qui sont insalubres au possible, quoi. Normalement, l'État devrait pas laisser faire des choses comme ça, par exemple. Et on peut voir le racisme aussi qui est en train d'avancer à grands pas. Hein. Et c'est pas que les gens, je pense pas que les gens soient foncièrement racistes, mais cette peur, ce essayer de préserver sa famille, etc. Ou j'en sais rien, fait que on pense moins aux autres.
Comment réagissent vos voisins de l'accueil de jour? Est-ce qu'ils vous disent bonjour ou est-ce qu'ils donnent le sentiment qu'ils aimeraient bien qu'il y ait un accueil de jour, mais éventuellement plus loin? C'est souvent le cas. Hein.
Non, je pense qu'ils sont habitués maintenant. Et puis surtout, il ne se passe pas non plus. Il n'y a pas des mutilés tous les jours, il ne faut pas croire. Il y a des petites périodes de violence qui sont individuelles, etc. Mais ce n'est pas non plus l'anarchie, etc. Donc non, ils ont l'habitude et je pense qu'on continue à garder ce lien quoi, avec les gens du quartier, avec les voisins. Donc ça se passe plutôt bien.
Vous nous expliquez que la précarité était plutôt en voie d'augmentation, mais est-ce que si on se livre un peu une évaluation de votre travail, pas que le vôtre évidemment, celui de l'ensemble des services sociaux ici à Marseille, est-ce que vous avez l'impression qu'on améliore la façon d'y répondre à cette précarité?
J'ai pas trop l'impression, non. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont des problématiques différentes et que bon après c'est peut-être une question de budget, etc. Mais j'ai pas. On essaye, hein. Tout le monde essaye. Les petites assos essayent. Tout le monde essaye de répondre aux besoins, etc. Mais on est tous débordés, voilà. Enfin nous personnellement par des situations qui sont inextricables, hein, de personnes qui sont dans des états pas possibles, etc. Non, c'est pas évident, hein. Déjà les places d'hébergement ou de logement. Après l'accès aux soins, il n'est pas évident. L'accès à l'hygiène, il n'est pas évident du tout. Il n'y a pas de douche publique, il n'y a pas de... Il faut voir... Bon, il y a des... au niveau de manger gratuitement, il n'y a qu'un lieu à Marseille où le midi, on peut manger gratuitement. Bon, après, il y a d'autres... mais il faut s'inscrire, c'est différent. Il y a d'autres lieux, mais il faut faire des petites démarches pour y accéder. Il n'y a pas de plus en plus d'endroits pour aider les gens, je ne pense pas. Après, c'est une volonté, je pense, mais comme je vous disais, tout revient à des moyens humains et financiers. Puis après, à des idées aussi, mais il y a des gens qui ont... Il y a plein de gens qui ont des bonnes idées, mais avant de pouvoir les mettre en place, je ne suis pas sûre qu'il y ait les fonds.
Est-ce que la difficulté à mettre en place ces bonnes idées, c'est un manque de vision politique, de décision politique?
Peut-être, mais je pense que oui, c'est une manque d'implication des politiques dans l'urgence sociale. Ils vont devoir y accéder de toute façon, je pense, parce que je pense qu'il y a tellement de gens dans la précarité qu'à un moment donné, il faudra s'atteler au fond du problème. En fait, il faut des petits projets à taille humaine, enfin, c'est ce que je pense, à taille humaine, que ce soit pour se laver, pour l'hygiène, se soigner, etc. Avec donc peu d'effectifs, hein, pour rester à taille humaine et puis pour différents publics.
La plupart des associations, et notamment ces petites associations que vous évoquiez à l'instant, elles dépendent du versement de subventions par le politique, justement. Est-ce que ça ne les rend pas un petit peu dépendants du politique?
Il y a celles qui ont des fonds propres et des subventions, et il y a celles qui ont que des subventions, effectivement... voilà, il faut que... Voilà, on aille chercher des subventions chaque année, etc. Donc effectivement, peut-être que ça bloque un peu, ouais, c'est sûr, au niveau... Mais je pense pas, je pense qu'on peut dire ce qu'on a à dire. Moi, casser du sucre, je pense pas que ça fasse avancer le public. Je pense que j'essaie de travailler avec tout le monde, j'essaie de connaître la culture de chaque association ou de partenaire officiel, hein, et puis j'essaie que ça avance doucement, mais sûrement. Enfin, à un moment donné, on peut critiquer, mais en tout cas, ça avance doucement, mais sûrement. Je veux dire, en 2 minutes, il n'y avait pas d'équipe mobile. Maintenant, il y a une équipe mobile. On est quatre travailleurs sociaux. On va dans la rue. Ça n'existait pas avant. Je veux dire, on n'a pas la pression du rendement. Hein. Bon, on a des chiffres à rendre chaque année, mais on prend le temps qu'il faut. Et je ne vous dis pas, des fois, les situations sont hyper compliquées. Et on a une voiture et on les accompagne, on les porte. Et c'est très bien. Et puis, peut-être que dans un an ou deux, il y aura d'autres propositions de fêtes. Voilà. En plus, j'ai pas le temps d'être dans le combat et tout. Je suis dans mon travail et dans ma famille et je peux pas faire plus pour l'instant.
registre des équipements urbains, quel regard vous portez sur ces merveilles de design aujourd'hui que sont les bancs publics et qui évidemment autorisent tout juste à s'asseoir, mais en tout cas certainement pas à s'allonger. Et surtout pas pour qu'un SDF puisse l'utiliser et s'y installer.
Ouais, il peut pas s'allonger et dormir, c'est vrai. Ben non, mais ça, c'est justement la politique qui va dans le sens inverse de ce qu'il faudrait. C'est comme, vous savez, les bas des portes ou les bas de, enfin, vous savez, quand il y a les baies vitrées des banques ou quoi que ce soit, là où on met les ferrailles. Effectivement, hein, c'est pour pas que les personnes sans domicile fixe s'allongent et s'installent. Parce que ben ça, c'est... Voilà, c'est
comment est-ce qu'ils perçoivent, eux, cette hostilité?
Ah oui, ils le vivent trop mal. Hein. Eux, ils ne comprennent pas du tout hein, comment on peut ne pas accepter que quelqu'un soit sur la voie publique, parce que finalement, ça n'appartient à personne et que de toute façon, ils peuvent aller nulle part, puisqu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils ne sont pas adaptés, parce que voilà, sur le moment, à l'instant T, c'est leur choix. D'ailleurs, ceux qui ont un bon endroit, ils essaient de le garder, ça. Et bien, au bout d'un moment, quand ils restent trop longtemps, dès qu'ils sont hospitalisés ou quoi, justement, et c'est après qu'on met toutes ces barres et tout. On sait très bien qu'après une hospitalisation ou quoi, quand ils reviennent sur leur lieu de vie, parce que c'est des lieux de vie, c'est l'endroit où ils sont, dans leur quartier, avec les gens qu'ils connaissent, etc. Bon, ben, en général, après, vous avez les barres de fer qui s'installent très rapidement.
Parlons un petit peu de ce qui pourrait évoluer finalement dans les politiques de santé, dans les politiques sociales. Qu'est-ce que vous attendriez le plus finalement d'une évolution, d'un changement à venir dans la façon dont on pourra apporter de l'aide pour la réinsertion des sans-domicile fixe? Qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Ben, je pense qu'il faut qu'il y ait une concertation donc de tous les partenaires, déjà sur prendre les problèmes à la base, comme on disait, l'accès à l'hygiène, à la santé, les domiciliations, l'insertion, les hébergements, les logements. Il n'y a pas non plus 50 domaines dans l'urgence sociale. À un moment donné, si voilà, vous avez 10-15 thèmes et on s'y attelle vraiment et on fait un grand débat et on voit ce qui est faisable, mais ça, il faut le faire avec... il faut que l'État s'en empare vraiment, parce que je ne sais pas du tout si sur Paris, ils ont conscience de l'état des lieux. Alors, voilà, qu'ils vivent mieux, qu'on les aide à vivre mieux, dans un endroit qui est humain et respectueux, quoi, de l'être humain, quoi.
Pour conclure cet entretien, Sabine, je vous proposerais de me raconter le pire moment que vous ayez vécu dans votre carrière jusqu'à présent, dans votre travail d'éducatrice de rue. Et puis probablement, peut-être après, vous demander quel a été le meilleur.
Le pire moment, alors là, il faut que je réfléchisse à ça. Déjà, les pires moments, c'est dans l'accompagnement qu'on propose à des personnes qui sont vraiment dans des états pas possibles, je dirais, avec des pathologies monstrueuses et où les orientations sont très compliquées, quoi. Ça, pour moi, c'est pas forcément mes conditions de travail ou quoi que ce soit, c'est vraiment les situations des personnes qui sont tellement inextricables que justement, on peut pas être force de proposition parce qu'il y a pas grand-chose, quoi. Et ça, ça m'énerve, ça me rend un peu folle. Par exemple, il y a une personne là qui est dans la rue depuis très très longtemps, qui, avec le froid et son alcoolisation massive, etc., bon, elle a dû être amputée cet hiver, etc. Donc maintenant, elle est sans domicile, elle a des pathologies donc physiques, psychique, je pense aussi, mais c'est pas forcément avéré, mais je pense aussi. Et il y a peu d'endroits où lui proposer un lieu de vie sympathique, dans le sens où handicapé en fauteuil roulant dans la rue, avec des multipathologies, avec un alcoolisme, etc. Donc elle cumule et il y a peu de choix possibles. C'est ça pour moi le pire. Après, il y a aussi l'accompagnement à la mort, parce que on a pas mal de gens qui décèdent chaque année. Et donc, il n'y a pas une situation en particulier, mais c'est des choses les plus raides. Et ça, c'est pas évident, bien que malheureusement, on en a tellement eu qu'après, on s'habitue aussi. Voilà, c'est de laisser, de se dire. Bon, moi, j'essaie toujours à ce qu'il y ait un médecin généraliste qui passe, ou un psychiatre, parce que j'ai besoin d'avoir un aval de la médecine. Je ne vais pas, en tant que travailleur social, dire, écoutez, respect du choix, je vous accompagne à mourir dans la rue. Donc moi, je lui propose, et je, à la limite, j'irai sans son accord, juste sur le passage d'un médecin, pour voir justement si elle n'a pas trop mal, si elle ne souffre pas trop, etc. Parce que justement, si à un moment donné, il y a altération de la conscience, etc., est-ce qu'on peut, et on peut l'hospitaliser de force, entre guillemets, hein, par une HDT, là, il ne faut pas qu'on se plante. Donc, et en général, ils acceptent, puisqu'ils refusent d'aller à l'hôpital, mais ils acceptent qu'il y a un médecin qui passe. Et après ça, si le médecin dit, bon, bah, écoutez, vous accompagnez, bon, bah, on le fait, mais ça, c'est raide. Parce qu'après, il y a des milliards de questions qu'on se pose.
Est-ce que vous ressentez de la culpabilité à ce moment-là ?
Non, non. Je culpabilise très peu, en fait. Je culpabilise très peu. Je culpabilise quand je pense avoir fait une bêtise dans une orientation ou dans. Je me dis, putain, t'aurais pu réfléchir à ce que t'as proposé ou ce que. Ou alors, je culpabilise quand j'ai pas réfléchi à quelque chose qui était de l'ordre du bon sens et que j'ai oublié d'y penser et de pas le dire. Mais sinon, je culpabilise peu dans le sens où on est assez dans la réflexion dans l'équipe mobile et puis à l'accueil de jour pour essayer de voir un peu, de tisser large, on va dire, dans la situation de la personne pour justement essayer de rien oublier. Et maintenant, on a des espèces d'habitudes, de travail, où justement, on se préserve de ça aussi. Je prends des décisions, je fais des choix tout le temps, mais quand je ne sais pas, je fais toujours appel aux autres parce qu'il n'est pas question que je... Voilà, c'est quand même la vie de quelqu'un ou l'histoire de quelqu'un qui est en jeu, quoi. Donc, je vais faire tout pour l'aider. Donc, je culpabilise peu, en fait. J'ai plutôt les boules parce qu'il n'y a pas de lieu adapté. Ou là, ouais, je me dis, c'est pas possible, quand même.
Et pour terminer sur une note optimiste, un moment dont vous vous rappelez où vous vous êtes dit, yes, je sers à quelque chose, j'ai réussi quelque chose, j'en suis très heureuse.
Bon, il y a plein de moments, quand même, parce que sinon, ça serait carrément... ça serait glauque. Quand on arrive, justement, à ce que les gens qu'on accompagne et qu'on connaît très bien, parce que on les voit énormément dans l'année 1, ils nous connaissent... En fait, ils nous connaissent... Nous, on essaie à ce qu'ils nous connaissent aussi bien qu'on les connaît. Donc, nous, on raconte pas notre vie privée ou quoi que ce soit, mais quand je parle de lien, c'est qu'à un moment donné, il y a un échange, il y a une relation qui se crée. Donc, nous, on donne beaucoup dans la relation. Ben, c'est quand quelqu'un a une situation à l'instant T qui est très difficile et qu'au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on arrive à lui proposer quelque chose qui est où il se sent bien, quoi. Et puis les petites choses me font énormément plaisir aussi. C'est bête, mais voilà, si quelqu'un ne mange plus et d'un coup il se remet à manger avec envie ou qu'il se coupe les ongles et qu'il me dit « Oh, c'est tellement bon de me couper ». Enfin, voilà, moi, nous, dans l'équipe mobile, on est tellement dans la grande précarité, vraiment, que les petites choses nous font plaisir. Et c'est vraiment, vraiment marche par marche. Et du coup, on met un peu on colmate un peu pour que la personne soit mieux. C'est un peu la réduction des risques, mais dans l'humanitaire. Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est ça, en fait.
Vous écoutiez un grand entretien avec Sabine Fabiani, éducatrice à l'accueil de jour Consola Marceau. Prochain rendez-vous dans la thématique Autour de Terre Commune, demain à 17h10. Entretien avec Claudie, STF. Toutes les émissions de la thématique sont à retrouver sur radiogrenouille.com.